Ahmed, salam
alaykoum. Salam
alaykoum. Donc, effectivement, vous avez rejoint. On va rappeler la principale information, notamment dès demain.
Enfin, une des principales informations, samedi 11 février, pardon, 2006, à partir de 20h. Donc, conférence animée par Tariq Ramadan, professeur de philosophie à l'université d'Oxford. Islam entre principes et réalité, voilà le titre du débat. Cette conférence a pour objectif d'aller à l'encontre des idées reçues, des préjugés et inquiétudes qui agitent le monde par rapport à l'islam. Donc ce sera demain 11 février, samedi, à partir de 20h. Alors où ça? C'est à la salle MACC, la MAC, à la Cité Scientifique. Donc c'est juste à quelques minutes de la métro Cité Scientifique à l'université. La MAC, c'est juste à côté de l'hôtel Ascotel. À partir de maintenant, une petite participation aux frais de 5€ sera demandée. Les places sont relativement limitées, on attend pas mal de monde, donc il sera intéressant et souhaitable pour beaucoup d'entre vous de venir relativement plus tôt, 19h, 19h30, histoire d'avoir plus de chances de trouver des places aux premières loges. Bienvenue à vous tous et à vous toutes.
Donc on va revenir simplement sur. Attends, on a fait un petit tour de quelques penseurs. Qui ont pu s'exprimer justement sur l'affaire des caricatures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va revenir à l'analyse de François Burgueux qu'il a fait sur Ouma.com.
Donc avec nous Ahmed, assalamu alaykoum, Ahmed.
Alaykoum salam.
Donc pour lui, voilà son texte, il fait une page, il n'est pas long, ce sera peut-être plus simple que d'essayer de le
lire.
Ouais, on va le lire. Donc, curieux timing, étrange protagoniste, au lendemain du formidable camouflet monté du fond des urnes palestiniennes, comme il est étrange cet engouement des régimes arabes exsangus à vouloir s'approprier à l'occasion de l'affaire des caricatures les ressources religieuses de leurs opposants islamistes. Et quid de notre propre empressement à souffler de conserver sur des cendres où, plus de 4 mois après les premières publications concernées, le feu avait quasiment disparu. Ne serons-nous pas à prendre tout cela trop au sérieux, les idiots utiles d'une farce dont la recette est aussi simple qu'elle est ancienne, les généraux dictateurs refont le plein de ressources religieuses. Pour faire oublier l'évidence politique du message des urnes palestiniennes, leurs protecteurs occidentaux théologisent un peu plus encore la lecture des résistances dont ils font l'objet dans le monde en général, au Proche-Orient en particulier. Pour ne pas avoir assumé l'évidente responsabilité d'un conflit de type colonial, quoi de mieux que de le masquer sous le voile d'une guerre des religions? Et qu'importe si une partie de la planète s'enflamme, pourvu que de solides intérêts partagés en réchappent, fût-ce provisoirement. Si l'on ne se méprend pas dans la construction des catégories, le fond religieux du débat sur les caricatures s'avère donc en fait n'en être qu'une forme imposée pour mieux brouiller les cartes. L'enjeu n'est pas théologique, mais bien plus que jamais politique. Bien sûr qu'il est loisible de critiquer Dieu, bien sûr que les préceptes d'une religion, telle l'interdiction faite aux croyants musulmans de représenter leurs prophètes, ne sauraient aucunement s'appliquer à toute la planète. Mais la question n'est pas celle-là. Elle est d'abord de définir si la liberté d'expression des nantis de la politique mondiale lui donne le droit de stigmatiser par un procédé qui relève du plus classique racisme, les marqueurs identitaires des autres. Ce dérapage des caricatures est souligné par la dichotomie flagrante qu'opèrent leurs auteurs, ces défenseurs autoproclamés des libertés entre les tabous des autres qu'ils affrontent si courageusement et leurs propres tabous devant lesquels leur courage paraît bien vacillant. Car le vrai fond du problème est bien cette insolente ambivalence de la lutte à géométrie variable qui nous disent mener pour cette liberté d'expression et cette défense des lumières qui seraient, prétendent-ils, menacées par les tabous des musulmans. Enfin, bien plus sûrement que dans le tabou du prophète dédominé, le vrai danger qui menace aujourd'hui en Europe la liberté d'expression réside dans le tabou de l'argent des dominants. Le risque de voir l'essence même de la liberté de la presse, c'est-à-dire son pluralisme et sa capacité à représenter le monde avec les catégories et les sensibilités de toutes les familles politiques et de toutes les tribus du monde, se fondent dans le conformisme de la vision d'un seul camp et plus réel que jamais, la concentration de la presse occidentale dans les mains de groupes industriels donc, a atteint un seuil sans précédent. Cette presse est aujourd'hui presque unanime à présenter comme une guerre de religion un conflit proche-oriental qui a tous les attributs de nos vieilles dominations impériales. Le déséquilibre de la répartition de la parole publique, chaque jour plus flagrant et plus arrogant, entretient toutes les frustrations et nourrit toutes les radicalisations. Pourtant, nos impertinents briseurs de tabous n'exercent jamais leur talent contre ce scandale-là. La hauteur du mur de l'argent excéderait-elle leur force et leur courage? Tel prophète serait-il donc plus redoutable que tel autre? Donc voilà, ça c'est le texte de François Burga, politologue à Aix-en-Provence, auteur de l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, la découverte de Moussa.
Voilà. Bon, il n'est pas très très simple non plus. Il faudrait un petit peu traduire, si je puis dire, en langage de tous les jours sur le fond du texte. Donc, en fait... on va essayer de traduire un petit peu.
Le fond du texte veut dire que les caricatures, c'était juste un moyen...
C'est de la poudre aux yeux, encore une fois.
Voilà, pour créer une polémique et instrumentaliser un certain nombre de personnes qui restent et qui vivent dans le réactif. Donc réagir par rapport à ces polémiques et réagir d'une manière indisciplinée et loin de l'éthique musulmane. Notamment le fait de brûler les drapeaux, de brûler les ambassades et de casser les biens des autres, alors que l'islam, dans son enseignement profond, nous interdit absolument toute nuisance et préjudice que nous risquons d'apporter à autrui, qu'ils soient musulmans ou non musulmans.
Donc elle faisait apparemment allusion aussi à dernières élections qu'il y a eu en Palestine avec la victoire écrasante du parti du Hamas, oui. Et donc qui affichait ici en Occident entre autres comme étant un parti d'islamiste intégré, c'est tout ce que vous voulez. Et les 10 gouvernements qui perdaient un petit peu du crédit vis-à-vis de leur population cherchaient. Bon, c'est son analyse. Hein. Enseignant en Sciences Po, tu le dis, donc je dirais une certaine crédibilité. Chercher, donc je disais, ces mêmes gouvernements qui perdaient un peu du crédit vis-à-vis de leur propre peuple, cherchaient à essayer de se réhabiliter ce peuple en leur faisant croire que eux aussi ils avaient des valeurs religieuses et qu'ils pouvaient être scandalisés dès qu'on portait atteinte de près ou de loin à la religion, à l'islam. Ouais, c'est pas, je veux dire, c'est relativement pertinent. À la mesure où on l'a vu, il y a une montée effectivement des partis, il y a peut-être un ras-le-bol généralisé, on a beaucoup plus confiance à un certain parti dit islamiste, on pense en Égypte ou on pense en Palestine, et n'empêche qu'ils ont eu l'approbation du peuple et c'est les mêmes gouvernements qui ont peur d'être demain évincés du pouvoir, donc tous les moyens sont bons. Et il en va aussi, d'après si j'ai bien compris l'analyse, hein, il en va aussi de l'intérêt des pays occidentaux qui eux ont des enjeux bien sûr à faire prévaloir dans ces pays et ils ont beaucoup d'intérêt à laisser les dictateurs qui sont en place n'en déplaisent à la population démocratiquement, même s'ils ont choisi démocratiquement un remplacement, on va toujours chercher à trouver une excuse pour dire que, bah, après tout, même si vous l'avez choisi, vous n'étiez pas bien éclairé, ou ceci ou cela, ou vous êtes manipulé, enfin bref. Mais ça, effectivement, ça peut être aussi de la poudre aux yeux pour alimenter encore la peur, puisque c'est toujours ça derrière. Hein.
En sachant aussi qu'au nom de la liberté de la presse, beaucoup de quotidiens et hebdomadaires donc, ont utilisé ces caricatures, voulu reproduire ces caricatures, enfin, les diffusions au nom de la liberté de la presse, sachant que ces journaux, ces quotidiens étaient au bord de la faillite. Ça, il faut bien l'entendre. C'est aussi un coût médiatique, un coût financier. C'est une aubaine pour tout le monde. Chaque version, ça fait vendre du papier, ça fait... Et ça, il faut bien l'entendre, qu'il y a une manipulation de tous les côtés. On en parle beaucoup, mais le réel problème, c'est la sensibilité qu'elles peuvent avoir, vu que nous, on le vit de l'Occident, les Occidentaux vis-à-vis de l'islam et de ces musulmans. Alors, est-ce que les musulmans seraient... C'est la question, Inch'Allah. Peuvent avoir une critique, entre guillemets, par rapport à leur propre religion, et ce serait-il susceptible je sais qu'il y a une émission avec Calvi, vous avez peut-être vu, il y a un livre Calvi, dans
mot croisé, oui.
Un mot croisé, voilà. Et c'était sa question qui revenait à chaque fois. Est-ce que vous êtes frileux, vous aimez pas la critique, qu'est-ce qui se passe, on sent une peur, une crainte, il y a une escalade et tout ce qui s'ensuit.
Juste avant de répondre à la question qui est très intéressante et importante, juste pour corroborer ce que tu disais à l'instant, à savoir qu'effectivement, ça faisait vent. On parle de Charlie Hebdo qui a doublé
qui était au bord de la faillite.
Ouais, bien sûr, donc ça c'est reparti pour un tour. Et Charlie Hebdo qui a suivi derrière, et on le sait, ils ont fait une deuxième diffusion parce que tout était parti à la première diffusion. Mais aussi pour aller dans le sens de l'analyse de Burga, là, effectivement, J'ai vu sur le net qu'il y avait la caricature, la fameuse caricature où le prophète portait à la place la représentation, enfin la caricature, ouais, la polémique elle est là-dessus. Voilà, et il semblerait que c'était déjà diffusé dans des journaux arabes, en l'occurrence un journal égyptien.
Jordanien.
Et égyptien ou jordanien?
Jordanien,
oui.
C'est du direct, hein,
en ce. Et donc je disais effectivement depuis octobre ou novembre il y avait cette caricature qui était diffusée et on n'a pas vu l'ébranlement comme ça du peuple et là ça allait dans le sens du mais bon on va répondre.
Les deux journalistes ils étaient poursuivis en justice en Jordanie. Donc ils ont comparu devant le juge donc ça c'est une affaire interne aux musulmans et au pays qui est la Jordanie. Par contre, moi, je pense que les médias français, en heurtant les sensibilités d'une composante importante de la société française, ils poussaient à la violence. Et donc, à mon sens, c'est que cette affaire de brûlure des voitures à l'époque où le ministre de l'Intérieur avait fait un saut dans les banlieues et tout ça, comme elle n'a pas fait effet, donc il fallait utiliser ces instruments qui sont les caricatures, en rajouter carrément, c'est ce qu'a fait Charlie Hebdo, en rajouter carrément pour heurter les sensibilités et donc attendre les jeunes dans la rue. Pour avoir plus d'images de voitures qui brûlent et puis par la suite dire que voilà ces jeunes-là ils sont bien sûr poussés par les islamistes à détruire notre pays et aller dans les discours de l'extrême droite qui dit que la France est telle et celui qui ne la veut pas il n'a qu'à la quitter. Et la réponse était d'un jeune aussi de la banlieue qui dit « On est la France. Et si vous ne voulez pas de nous, en tant que France, vous la quittez. Ouais. » Donc, maintenant, reste que la question, est-ce qu'on a on est frileux à la critique? Pas du tout, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai puisque ce qui a été fait, les caricatures, n'était pas une critique du tout. C'était des mensonges. On ne peut pas critiquer quelqu'un en présentant des mensonges, de la diffamation. La critique se fait sur des faits réels et porter atteinte à l'image du prophète et dire que le prophète Al-Salam était un homme qui a incité les gens à la terreur et au terrorisme et qu'il cautionnait le suicide et qu'il a invité un meurtre et au viol des gens à qui il disait, comme dans l'une des caricatures, il y a des vierges qui vous attendent au paradis. C'est du pur mensonge. C'est ce que avait dit le recteur de la mosquée de Paris. Il a été stigmatisé juste après par la presse et par certains hommes politiques. Faut savoir qu'est-ce qu'on veut. On veut des gens justes ou on veut des gens qui jouent notre jeu? On veut des gens qu'on prenne dans les courants. Chaque fois qu'il y a un courant, ils sont dedans. Donc là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une culture et des mœurs d'un pays dans lequel nous faisons partie. que nous devons comprendre et connaître. Et donc si aujourd'hui les musulmans de France n'ont pas réagi de la même manière qu'ont réagi certaines minorités de musulmans du monde arabe ou le monde asiatique, c'est parce que les musulmans de France savent qu'ils vivent dans une réalité. Et cette réalité, ils la vivent au quotidien, ils font appel à cette réalité elle-même, cette réalité qui est celle du droit, celle de la justice. Et le fait qu'on dise que quelqu'un a le droit de s'exprimer librement, sa liberté s'arrête à mon droit, à moi aussi. Et donc, le proverbe dit le droit de l'un s'arrête à celui de l'autre. Et donc, heurter les sensibilités et stigmatiser une communauté, ça ne rentre pas dans le cadre de la liberté d'expression. L'art lui-même, qui est un moyen d'expression libre, s'arrête, bien sûr, aux sensibilités des autres. Et l'art, normalement, il est fait pour exprimer les sensibilités, et non réprimer les sensibilités et les blesser. Mmh. D'accord ? L'art lui-même a toujours vécu, ici en Occident, à travers les clashs, à travers les discours, des discours ambigus et polyvalents, des discours qui ne tiennent pas un moment, ne tiennent pas longtemps, ils tiennent un moment, après ils disparaissent, à travers le choc de la société. L'art, il a vécu comme ça, ici en France. Moi, j'ai étudié l'histoire de l'art et je sais de quoi je parle. Et donc, si aujourd'hui on dit que la caricature est un art, on dirait oui. Mais normalement, l'art, il est fait pour élever l'être humain et non pas le rabaisser. Et cette caricature, elle rabaisse. Elle rabaisse à la fois celui qui l'a fait et elle rabaisse l'image de celui qui est représenté. Alors que normalement, l'artiste, il devrait normalement refléter la société. Et ces caricatures ne reflètent pas du tout la société française. D'ailleurs, 54% dans les sondages de Français aujourd'hui sont choqués par ces caricatures. Il faut aller voir, vous verrez, 54% des Français sont choqués.
Oui, en plus, ça reste pas une majorité écrasante, 54%.
Oui, mais ça c'est par rapport au sondage. Oui. Il y a des gens, tu sais très bien, qu'ils ne répondent pas au sondage.
Oui, j'entends bien, mais je veux dire, non, c'est pas dans ce sens-là, moi je veux dire, c'est qu'il y a peut-être un moment, c'est qu'il y a quand même une large population aussi qui est peut-être favorable à ce qu'on ait ce genre de polémique. Alors là, c'est encore plus inquiétant.
Je pense pas qu'elle est large.
J'espère pas, mais je veux dire, non pas que...
Je pense que le français d'aujourd'hui, il est stable et il sait analyser et
ah oui, j'entends bien.
Je pense que le danger, enfin, l'unanimité a priori de ce qu'on a pu entendre des personnes, on dit que les caricatures, franchement, elles sont nulles. C'est pas une œuvre d'art, loin de là. Ça, c'est clair. Il y en a beaucoup qui se sont élevés, des intellectuels, pour la liberté d'expression. Mais moi, à ma connaissance, il y a que le MRAP qui a déposé plainte. Mmh. Contre ces caricatures, notamment au niveau de journaux qui les ont diffusées. Mais par exemple, on prend.
Il y a des institutions, je pense que.
Le premier, c'est le.
Voilà, ça a été le MRAP, et personne, bon, le président s'est exprimé clairement. Mm. En disant, il a eu une bonne aussi argumentation. C'est-à-dire qu'on peut effectivement. Il peut y avoir des caricatures, mais d'un autre côté, on peut ne pas être heurté ou heurté dans sa liberté. Je pense que tous les musulmans ont été heurtés. Je dirais même les gens qui. Sont entre guillemets loin de la pratique, et ils ont été heurtés, ça il n'y a pas de problème. Mm. Le problème, le fait de banaliser ce genre de choses et ce genre de caricatures, et je reprends mon mot d'analyse qui disait dans les années 30, il y avait des caricatures sur les juifs, et regardez où ça a mené, là, le fait de banaliser cela, et le danger il est là, sincèrement il est là. Enfin, à force de banaliser, on normalise les choses, et c'est vrai, aujourd'hui il y a 54% de personnes qui ont été choquées par ces caricatures. Bon, c'est vrai que c'est déjà
pas mal. Bon. À l'occasion, on nous montre aussi dans les médias certaines revues et certains livres pro-arabes ou arabes qui, bien sûr, ont publié des caricatures contre les juifs, contre la communauté juive dans le monde arabe. Et bien sûr, ces caricatures, on nous dit que pourquoi les musulmans ne se sont pas révoltés contre ces caricatures qui datent depuis des années et des années. On est d'accord sur le fait qu'elles existent, ces caricatures. Mmh. Mais qui c'est qui les fait? Ce ne sont pas des musulmans. Ce qu'on ne veut pas montrer, surtout à la télé, c'est que les journaux ou les revues qui ont mis ces caricatures, ce ne sont pas des journaux et des revues musulmanes. Et qui prennent, c'est des journaux arabophiles. D'accord? Des revues arabophiles. Deuxième chose, c'est que certainement... Il y a eu des caricatures faites par les chiites en Iran ou au sud du Liban. Mais il faut savoir que la majorité écrasante des musulmans sont sunnites. Et l'islam sunnite interdit formellement la représentation en caricature de créatures de Dieu. Et déformation de la forme humaine. Et la représentation de la forme humaine et animale. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on dit pourquoi on cautionne ces caricatures et on ne cautionne pas les autres. Certes que les savants musulmans ont répondu à cela. Dernièrement, on nous parlait tout d'abord du terrorisme dès le début de l'année, dès septembre. Et le nouveau pape, il avait carrément fait un discours à l'égard de la communauté musulmane en Europe et que les responsables des musulmans du monde entier devraient se lever et faire quelque chose contre le terrorisme dit islamiste, et on laisse de côté et on ne parle pas du tout de plusieurs congrès qui ont été faits par la majorité des savants de l'islam, que ce soit en Égypte ou en Syrie, et qui se sont faits contre le terrorisme et qui dénonçaient ce terrorisme. Les prêches du cheikh Youssouf Al-Qardaoui chaque vendredi qui faisaient la même chose quand il s'agit de ses discours dans l'islam online. Ou quand il est venu en Angleterre dernièrement. On laisse de côté tout ça et on ne le montre même pas. Alors que chaque semaine, sachez que depuis le début de l'année, chaque semaine il y a un congrès et réunion de savants de l'islam pour régler et résoudre ces problèmes-là et donner bien sûr des revendications concernant ces choses, et notamment ces caricatures, et notamment ces personnes qui ont brûlé, qui ont s'engagé, qui ont fait ce qu'ils ont fait, qu'on a vu, et qui sont une minorité. Je ne sais pas si vous avez vu dimanche entre les midis cette émission importante et intéressante qui est Arrêt sur image, et comment ils ont analysé les images qui ont été diffusées durant toute la semaine dernière dans les chaînes publiques concernant cette affaire de caricature, et qu'on a montré, alors qu'il n'y a eu qu'une dizaine de personnes qui manifestaient, on disait des centaines, et qu'on faisait des grands plans sur une dizaine de personnes, et que aussi des très gros plans et travelés d'avant carrément sur les caricatures elles-mêmes, à faire plus que et mieux que le journal danois. Donc tout ça, derrière tout ça il y a quelque chose. Et derrière tout ça, moi, à mon avis, il y a le fait de heurter les sensibilités du musulman contribuable de ce pays, le faire sortir malgré lui dans la rue et manifester. Et nous, en tant que musulmans, même en tant qu'imam et en tant que représentants des musulmans dans notre métropole, on dit non, on ne va pas sortir dans la rue, on ne va pas casser, on ne va pas brûler, mais on va aller chercher notre droit dans les tribunaux. Et hier soir, il y a eu une réunion de 9 mosquées de la métropole, plus 2 mosquées qui étaient absentes, donc 11 mosquées, et qui ont bien sûr se sont mis d'accord sur le fait de porter plainte contre ce journal qui dernièrement Charlie Hebdo et d'autres journaux, bien sûr le 20 minutes aussi, ouais. On l'a fait. Le 20 minutes a été jusqu'à distribuer ces journaux gratuitement, les distribuer devant les collèges, alors qu'il n'a pas le droit. Normalement, le 20 minutes, c'est un journal pour les adultes, pas pour les adolescents. Il est distribué devant les collèges, pour heurter, pour chercher ces jeunes qui vont casser, qui vont crier. Et on va les filmer, on va les prendre en photo, et on va les montrer dans les journaux pour les consommateurs du 20h.
Barakallahu fik. Une petite pause, on rappelle 03 20 113 59 00 si vous voulez réagir, 03 20 113 59 00. On se retrouve dans 5 minutes inchallah pour continuer sur cette thème
99.4, donc 21h passées de quelques 2 à 3 minutes. On est ensemble, Inch'Allah, jusqu'à 22h. L'émission La Prophétie, c'est Ahmed Mekhtar avec nous. Juste l'information pour demain, samedi 11 février, à partir de 20h, conférence du frère Tariq Ramadan, qu'on ne présente plus, intitulée Islam entre principes et réalité. Donc à la salle MACC, à la MAC, à la Cité Scientifique, donc c'est à Villeneuve-d'Ascq. Il y a le métro, c'est la ligne 1, Cité Scientifique. Donc c'est juste à côté de l'hôtel Ascotel. Métro ligne 1, arrêt Cité Scientifique. Petite participation aux frais de 5€. N'hésitez pas, à partir de 20h, samedi 11 février, Islam entre principes et réalité avec Tariq Ramadan. Donc pour reprendre le thème de ce soir, on a précisé un petit peu ce qu'on pouvait entendre et analyser sur toute cette polémique qui a eu lieu ces 10-15 derniers jours. Sans la notion de caricature, on est d'accord sur le fait que le but est encore d'installer une peur, hein. Une peur et bien sûr heurter les sensibilités et des deux côtés, que ce soit de la communauté musulmane et de la communauté non musulmane, en installant notamment une peur de cette communauté. Comme toujours, on sait très bien que la peur, elle est beaucoup plus précieuse pour régner sur les populations, alors autant l'entretenir pour avoir une meilleure emprise malheureusement. Mais bon, on va consacrer le reste de l'émission sur malheureusement ce qui a été l'objet de cette caricature, c'est notre prophète bien-aimé. Et on va montrer dans cette dernière heure qu'il est bien au-delà et bien, bien loin de tout ce qu'on peut lui représenter, si je puis dire. C'est Ahmed, on va parler de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme de paix, un homme de miséricorde, avant que ça soit une de ses représentations qui viennent le salir. Bien entendu, il n'a pas besoin de personne pour le sauver, Allah l'a déjà sauvé. Et on va quand même rappeler quelques éléments importants de sa vie et montrer que c'est d'abord un homme de paix, de grande miséricorde qu'Allah a bien voulu accorder à l'humanité.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Certainement, le prophète de l'islam a été touché dans son honneur déjà de son vivant par son propre peuple Quraishite de la Mecque qui bien sûr l'ont sali et ils ont essayé de salir sa réputation en disant qu'il était sorcier, qu'il était touché par les démons et par la folie, qu'il était menteur. Ce même peuple qui savait que avant que le prophète Mohammed ait la prophétie et ait son message, il était considéré et surnommé par ce même peuple, le digne de confiance, l'Amin, le digne de confiance. Et ce même peuple qui, malgré qu'il l'insultait, malgré qu'il le heurtait, et malgré qu'il, bien sûr, malmenait sa famille et sa propre personne et les musulmans qui l'ont suivi, déposait chez lui leurs biens. Car il savait qu'il était digne de confiance. La preuve, c'est que quand il a fait la migration, il a laissé Ali derrière lui, à la Mecque, pour rendre aux Quraishites, aux notables Quraishites, leurs biens qu'ils avaient déposés chez lui. Donc le prophète de l'islam, lui-même, si aujourd'hui on parle de caricature, il a subi ce genre d'agression. En fait, à travers lui, on agresse l'islam, on heurte l'islam, on essaie de salir l'islam, et les musulmans, bien sûr. Et donc, il a eu la même chose, on sait très bien, au Moyen-Âge, et il y a un livre très intéressant à ce sujet, que je vous invite, mes frères et sœurs et mes amis, à lire. Vous pouvez la voir aux librairies, notamment la librairie Safir, à l'Épelle, à Roubaix. Le livre, c'est l'islam dans l'imaginaire occidental. Islam dans l'imaginaire occidental, et vous verrez depuis que l'Occident a connu ce prophète, certains dirigeants religieux d'Occident de l'époque, du Moyen-Âge, ont essayé de citer des mensonges et de bien sûr d'appeler les dessinateurs à faire des gravures C'était des gravures à l'époque qui montraient bien sûr une image horrible du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui l'ont nommé Mahomet au lieu de Mohammed et qui ont dit qu'il était un prêtre chrétien qui s'est rebellé contre l'Église et qui a créé une secte appelée l'islam. Donc il était déjà caricaturé de cette manière, comme les musulmans, on a dit d'eux certains mensonges. Ils ont été nommés les sarrasins, les sarrapines, les voleurs, et on faisait peur à la population avant même la rencontre avec l'islam et les musulmans, que s'ils rentrent dans notre pays, ils vont voler, ils vont faire cela et ceci. Et notamment certaines chansons de l'époque et certaines poésies, certaines histoires montées du théâtre et mensonges à l'égard et au sujet de l'islam et du prophète de l'islam. Bref, le prophète lui-même, il a été, frappé par son peuple carrément, notamment les gens de Taïf, ils l'ont frappé par des pierres, ils l'ont fait saigner jusqu'à ce que le sang est arrivé à ses pieds, le prophète aussi son peuple et notamment son propre oncle qui était le pire ennemi de l'islam à l'époque a essayé de l'étrangler à plusieurs reprises, il a pris carrément un rocher, il voulait lui écraser la tête alors qu'il était en train de faire la prosternation devant la Kaaba. Un homme d'une famille noble de la Mecque avant la migration. Il a saisi l'occasion, sachant que le prophète, quand il se prosternait, il ne sentait plus, et quand il priait, il ne sentait plus autour de lui ce qui se passait. Et donc il a saisi l'occasion pour prendre les excréments dans un récipient et de les verser sur la tête du prophète. Des choses qui, bien sûr, ressemblent à ces caricatures, certainement. Mais comment il a agi, il a réagi à l'islam? Allah l'a cité dans le Coran. Regardez la sourate, le voyage nocturne, l'Isra, à partir du verset 45, et vous verrez que Allah, exalté soit-il et loué, s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans le Saint-Coran, « Inkadu la yaftinunaka alilladhi awhayna ilayka litaftari alayna ghayra, ou idhan lattakhadhuka khalila. » Et ils ont failli te pousser à inventer des choses que nous n'avons pas révélé. Et à ce moment-là, il t'aurait pris pour ami intime. Et on sait très bien que de nos jours, il y a certains parmi les gens qui sont revendiqués de l'islam et qui ont été, bien sûr, poussés dans ce terrain d'inventer et de part et d'autre. Que ce soit ceux qui inventent sur l'islam le fait que l'islam appelle au terrorisme, que ceux qui se revendiquent de l'islam et qui disent que l'islam c'est il faut qu'ils répondent par la guerre et par le sabre, alors que cette notion Bible épée ne fait pas partie de notre culture ni de notre appel. Nous on n'a pas le Coran et le sabre du tout. Nous si on étudie l'histoire véritablement et l'histoire écrite par des non-musulmans si vous voulez, on trouve que l'islam est rentré par exemple en Égypte sans guerre. L'islam est rentré en Égypte par la force spirituelle, par le fait que les coptes égyptiens ont fait appel à l'islam à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et alors que les coptes ils étaient sous l'emprise chrétienne byzantine. Et donc Byzance opprimait ce peuple chrétien copte. Et quand l'islam est rentré, avec bien sûr Amr ibn al-As, quand l'islam est rentré en Égypte, on a cette affaire dans la biographie de Omar où un jeune copte avait fait la course de cheval, l'équitation, la course de cheval avec l'enfant du préfet de l'Égypte, qui était Amr, un compagnon, son fils, il a fait la course et le copte avait gagné. Mais le fils de Amr n'avait pas aimé cela. Il a pris un bâton, il l'a frappé. Il lui a dit, tiens, de la part du fils du préfet. Et le jeune copte s'est révolté, n'a pas aimé ce qui s'est passé. Alors que à l'époque des Byzantins, où ils étaient sous l'emprise byzantine, ils ne pouvaient rien dire. Mm-hmm. Mais là, il savait que l'islam était là pour les libérer, pour leur donner leur propre choix, leur liberté, et qu'ils avaient le droit de gagner, de fêter, d'adorer. D'ailleurs, les églises les plus anciennes qui existent dans le monde sont dans le monde musulman. Mm-hmm. Et donc, le jeune copte, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est plaint auprès de son père. Son père s'est plaint par lettre auprès du commandeur des croyants, à Médine. Et Omar, le commandeur des croyants, a appelé le préfet et son fils, et le copte et son fils. Ils se sont mis devant Omar. Et il leur a dit, vas-y, expliquez-vous. Le jeune a expliqué, et après, il a pris son bâton Omar, il a appelé le jeune copte, il lui a donné, il a dit, alors rends le coup au préfet et au fils du préfet. C'était un compagnon de préfet. Et le jeune copte lui a donné le coup. Au préfet et au fils du préfet. Mmh. Et là, on marque dans l'histoire ce que l'islam dit de l'esclavage. Parce que quand il y a eu l'affaire de l'esclavage, elle a toujours lieu. Certains enseignants d'histoire, géographie dans les collèges et lycées, certains qui cachent leur haine et qui la montrent de temps en temps dans des cours, et citant dans leur cours ce qui ne fait pas partie du programme du cours, je sais très bien, saisissent l'occasion. Un jeune homme nous en a parlé à la mosquée de Vinevdask, et bien sûr, le prof, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'islam, c'est lui qui a inventé l'esclavage. Vraiment, le contraire de ce qui est dit dans l'histoire, et le contraire de la vérité et la réalité, c'est un pur mensonge, une diffamation. Remarque, il marque l'histoire, il dit, il s'adresse à Amr, qui était compagnon, et à son fils, il leur dit, « Metastabattumun nas, waqad waladatuhum ummahatuhum ahrara. » Depuis quand vous prenez les gens pour esclaves, alors que leur mère les a mis au monde libres? Voilà ce que dit l'islam de l'esclavage. Voilà ce que dit l'islam de la liberté. La liberté, elle s'arrête. Elle s'arrête là où il y a la liberté de l'autre. Le droit s'arrête là où il y a le droit de l'autre. Et donc, l'islam, dans son histoire, le prophète a.s. a été frappé, a été diffamé. On s'est moqué de lui a.s. et comment il a répondu? Vous savez, l'affaire de Taïf, quand ils l'ont frappé, il a saigné jusqu'au pied. Comment il a répondu le prophète? Il a pleuré. Et nous, on va croire qu'il a pleuré parce qu'il a eu mal. Certainement, il a eu mal. Il a été frappé par des pierres. Mm-hmm. Il y a eu des douleurs. Mm-hmm. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a pleuré. Il a pleuré par crainte. Et il le dit dans son invocation. A'oudu binouri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat. Wa hasuna alayya hawanu dunya wal akhirah ay yalhaqa bi ghadabuk aw yahulla alayya sakhatuk lak al'utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Il s'adresse à Allah et lui dit, je demande protection auprès de toi, ô Seigneur, contre tous mes faits émanant de mes mains, émanant de moi, qui susciteraient ton désagrément et ta colère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur. Il craignait que le fait qu'il a eu ses pierres sur le corps et qu'il a été lapidé, ce soit un châtiment de Dieu et la colère de Dieu parce qu'il a commis des méfaits, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'il a pleuré. Mais Allah a envoyé Jibril, l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel s'adresse au prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, sous mes ordres, il y a l'ange des montagnes. Et cette cité qui est Taïf, elle est entre deux montagnes. Si tu veux, Mohammed, ton Seigneur, qui est le mien, m'envoie à toi pour te dire, si tu veux qu'il te venge, je donne l'ordre à l'ange de la montagne, des montagnes, il écrase la cité. Comme il l'a fait avec la cité de Lot. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde Jibril et lui dit, non mon frère, moi ce que je veux et ce que je souhaite, mon plus grand souhait, c'est qu'Allah fasse sortir de leur descendance une génération qui témoigne de l'unicité d'Allah. Oh mon Seigneur, pardonne à mon peuple car il est ignorant. Regardez, subhanallah. Un jour, les compagnons, ils étaient opprimés à la Mecque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur rappelait. Il leur disait, vous savez, il y avait un prophète qui, son peuple lui a fait du mal, il lui jetait des pierres, Ils l'ont fait saigner sur le visage, il essuyait le sang de son visage, il disait, il s'adressait à Dieu, et lui disait, oh Allah, mon Seigneur, pardonne à mon peuple, car il est ignorant. En fait, il parlait de lui-même, alayhi salatu wassalam. Et quand les compagnons sont venus le voir, surtout Omar, en lui disant, oh messager de Dieu, nous croyons en Allah, il est le plus fort. Tu es le messager d'Allah, tu es parmi nous. Allah nous glorifie. Laisse-nous nous battre. Et nous protéger de ce qu'ils nous font. C'était à la Mecque, ils étaient opprimés, on les frappait, on les massacrait. Le prophète Hassan lui dit non, vous êtes des gens trop pressés. Vous êtes des gens trop pressés. Attendez. Il ne cherchait pas la guerre, alayhi salatu wassalam. Et quand il a été construire et constituer son état à Médine, il n'a jamais cherché la guerre, alayhi salatu wassalam. Au contraire, il était toujours le premier à avancer la main pour la paix. Notamment Badr. La bataille de Badr, elle a eu lieu, ce n'est pas parce que les musulmans l'ont déclaré, c'est les Quraïchites qui sont sortis avec leur armée et déclaré la guerre aux musulmans. Les musulmans n'ont fait que se défendre. La bataille de Uhud, la bataille de qui n'a pas eu lieu, qui est celle de ce qu'on appelle les coalisés. Plusieurs tribus arabes se sont mises contre les musulmans, à peu près plus de 3000 soldats. Et Allah a fait en sorte que cette bataille n'ait pas lieu. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils tendaient toujours la main pour la paix. Une autre chose importante qui marque que le prophète alayhi wa sallam était pour la paix, c'est que quand il est sorti pour aller faire le pèlerinage mineur, l'Umrah, et qu'il a pris les compagnons et qu'ils ont mis leur tissu de sacralisation, ce qu'on appelle l'ihram, et sans armes, ils sont sortis, hommes et femmes, sans armes, pour aller faire leur umrah, et se sont arrêtés à la dune de Hudaybiyah. Les Quraychites, ayant crainte que Mohammed venait pour la guerre, et croyaient qu'il est venu pour la guerre, ils ont envoyé des émissaires. Et quand l'émissaire est venu pour faire une sorte de pacte et un accord et un engagement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont mis d'accord pour 10 ans de trêve, 10 ans de paix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la paix, il avait besoin de la paix. Et qu'est-ce qu'il disait, alayhi wa sallam, on est d'accord. Sous quelles conditions? Il leur a dit, sous vos conditions. Je vais vous citer une qui est incroyable. Eux, ils disent, toute personne qui vient de chez nous pour embrasser l'islam chez vous, vous devez nous la rendre. Et toute personne qui vient de chez vous pour retourner chez nous, on la garde. Le prophète m'a dit d'accord. Regardez, subhanallah, c'est injuste. Il a accepté, tant qu'il y a la paix. Ils ont voulu écrire le pacte de Hudaybiyah et l'engagement, et ils ont commencé par citer le nom des gens qui vont signer. L'émissaire de Quraysh et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, celui qui écrivait, c'était Ali ibn Abi Talib, du côté des musulmans. Il a écrit, voici les choses sur lesquelles se sont mis d'accord Mohammed rasulullah et tel. Alors l'autre, il a dit, non, faut pas écrire Mohammed rasulullah. Si je croyais, j'avais la conviction que tu étais messager de Dieu, je t'aurais pas combattu. Alors il faut enlever messager de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, enlevez-la. Mettez Mohammed ibn Abdillah. Alors que ça fait partie de notre foi. C'est un principe dans notre dogme, le fait de proclamer et de citer le fait qu'il soit messager de Dieu. Et le prophète a dit, il faut l'enlever. Ali a hésité, il n'a pas voulu. Il a dit, je ne peux pas moi l'effacer. Ça fait partie de mes convictions. Le prophète lui a dit, montre-la-moi, car il était illettré. Ça ne veut pas dire. Il lui a montré, et le prophète lui-même, par son doigt, il a effacé cette formule, Rasulullah. Une concession qu'il a faite pour la paix. Et ces choses-là, on ne les entend pas. Ce qu'on voit, c'est une caricature, une caricature montrant un homme, dit Mahomet, avec bien sûr sur sa tête une bombe. Une bombe, c'est-à-dire un homme terroriste qui appelle au terrorisme et à la terreur. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, a interdit, formellement dans un hadith authentique, de terroriser une personne. Même pas un animal. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, une personne est rentrée en enfer parce qu'elle a empêché un chat, elle l'a mis dans une cage, elle lui a pas donné de quoi se nourrir, elle l'a empêché de sortir pour aller se nourrir jusqu'à ce qu'il est mort. Cette personne, elle est en enfer pour un chat.
Alors, pour un homme. Hein?
Alors imaginez pour un homme. Il est dit qu'une prostituée, après qu'elle a commis la prostitution, de retour chez elle, elle trouve un chien en train d'agoniser de soif, de mourir de soif. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche de l'eau, elle trouve un puits, mais elle ne trouve pas de sous. Elle prend sa chaussure, elle la prend avec ses dents. Elle descend jusqu'en bas, elle remplit sa chaussure d'eau, elle la reprend encore avec ses dents, elle remonte, elle nourrit. Et elle nourrit le chien, elle le sauve de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette femme, Allah lui a pardonné, subhanallah, lui a pardonné le péché d'avoir commis la prostitution et l'adultère et la fornication, et il l'a mise au paradis grâce à cette action. Lui-même qui disait, le minimum de la foi, c'est que le musulman enlève du chemin des passants ce qui risque de les nuire. Les passants, en général, ça peut être un chien, un chat, un animal, une vieille dame, sans penser quelle confession il a. Lui-même qui disait, nul parmi vous ne pourrait se prétendre croyant que si il honore son voisin. Lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dit, quiconque parmi vous ne peut se prétendre croyant s'il dort le ventre plein alors que son voisin n'a pas de quoi manger. Il dit son voisin. Ne parle pas de... Il ne distingue pas entre les voisins. Alors, aujourd'hui, on ne nous dit pas, c'est pur mensonge, diffamation, ce qu'on est en train de dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même si on en dit ce soir et on en dit, on n'arrivera jamais à en dire assez de ce qu'il était, ce personnage qui a marqué l'humanité. Donc, l'un des intellectuels anglais, européens, avait dit, si Mohammed était là aujourd'hui, il aurait résolu les problèmes du monde entier en prenant un café. C'est pas moi qui le dis, c'est pas un musulman qui le dit. C'est un non-musulman anglais.
Donc là, on a un appel d'un auditeur ou d'une auditrice. Farid, vas-y, accroche-nous. Allô?
Allô, salam alaikum.
Alaikum salam.
J'ai une question à poser sur les caricatures.
Oui.
Donc c'est pour savoir, est-ce que vous pensez pas que... Donc déjà, d'une, c'est scandaleux ce qui s'est passé. Et la réaction du monde musulman par rapport à ce qui s'est produit depuis la parution des caricatures. Qu'est-ce que vous en pensez?
On a donné quelques éléments tout à l'heure, donc je ne sais pas si vous prenez l'émission en cours ou pas. On a donné quelques éléments.
Oui, les éléments, c'est qu'au niveau des caricatures, déjà, nous, sunnites, on dit qu'il nous est interdit, nous, de faire des caricatures, et on n'interdit pas aux non-musulmans d'en faire. Et par contre, si on veut critiquer un homme ou on veut critiquer une idéologie, on la critique idéologiquement et par l'écrit et non pas par l'insulte et par la caricature et le mensonge. On critique par des réalités et des vérités et non pas par des mensonges. Et si aujourd'hui certains se revendiquent pour terroriser les gens de l'islam, ils ne se revendiquent pas du prophète de l'islam tel qu'il est connu et aimé par la majorité des musulmans. Et je retourne à votre parole qui me choque aussi de dire que la réaction du monde musulman, je ne suis pas d'accord avec vous, le monde musulman est autre que ce que nous avons vu à la télé, c'est cette minorité qui a brûlé, qui a commis ce qu'elle a commis. Le monde musulman est intelligent. Et il faut donc réagir par rapport à ces choses-là intelligemment, et réagir bien sûr avec le droit, on a dit, réagir avec la sagesse, réagir avec connaissance de cause et de réalité et de contexte dans lequel nous vivons. Voilà.
Allô?
Ok, voilà,
bon, ben, merci pour votre appel. Restez à l'écoute pour la suite de l'émission. Cette émission, on va s'opérer une très courte pause. Je rappelle le numéro du standard 0329-73-59-00. 0329-73-59-00, c'est le numéro du standard. N'hésitez pas à intervenir comme l'auditeur. On va reprendre après la petite pause, je pense, encore quelques descriptifs, même si c'est pas exhaustif, bien entendu, sur les qualités de notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, envoyé par Allah comme étant une grande miséricorde pour l'humanité.
Allô. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Kouya, choukala, la boule et salah, la boule et sud. Habit nan dar ma chikh.
Oui, en français de préférence.
En français.
Là, pour que un maximum de monde puisse comprendre.
Oui, oui. Bon, moi j'étais un petit peu, comment on dit, sidéré et touché, quoi.
par ce qui s'est passé, par ces caricatures-là. Et moi, ce que j'ai à dire, à tous les musulmans même, hein, moi, ce que je ne comprends pas, c'est le silence des musulmans. Bon, comme j'ai entendu tout à l'heure, qui disait, le cheikh, il disait que la sagesse, et c'est le point qu'il faut prendre.
Mm-hmm. Bon. Sagesse, ça veut pas dire silence.
Oui, le silence, d'accord. Mais là, on a été touché au fond de nous, quoi.
Non, mais sagesse, ça veut pas dire silence. Ça veut dire qu'il faut réagir, mais de façon intelligente. C'est-à-dire, on n'a pas à tout casser, à tout voler, à tout brûler.
Non, pas à casser.
Non, mais
pas à casser, mais dire notre colère, dire ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent à notre religion, mm-hmm. qu'est-ce qu'ils veulent à notre islam, c'est tout. Mm-hmm. C'est dans la logique.
Oui.
C'est de nous attrouper, tous de parler, de dire ce qu'on a dans le ventre à dire.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Moi, je comprends pas le silence, parce que Kimalium Jumaa, on sort du Jama et on prie devant la porte, mais c'est pas ça l'essentiel. Et en plus, avec un silence que chacun y regarde autour, mm-hmm. c'est comme si on a été, c'est comme si nous on provoque,
oui.
alors que nous on a été provoqué.
Mm-hmm.
Hein, regardez un petit peu dans le monde autour de vous de ce qui se passe.
Oui, oui.
Hein, mais nous, quand même, c'est pas n'importe qui qu'ils ont caricaturisé. Mm-hmm. Et ce n'est pas. C'est
notre
religion, c'est le
Rasoul. Certes, on partage parfaitement avec vous cette douleur et bien sûr ce choc qu'on a eu.
Oui.
Mais ça ne veut pas dire que tous les contribuables français aujourd'hui cautionnent ce qui s'est passé et que c'est eux qui ont fait cela. Ça ne veut pas dire que nous, si on doit réagir, on va réagir d'une manière aveugle, aveuglée par nos sentiments et laisser l'intelligence de côté. Il faut qu'on réagisse avec intelligence et sagesse, c'est ce qu'on a dit. On fasse appel à la loi.
Mais si on agit par intelligence, c'est là qu'ils vont encore trouver de plus plus tard ils vont encore caricaturiser
non.
je ne sais pas qui
non pas du tout
déjà je sais pas si vous êtes au courant du sondage qu'ils ont fait sur les Français mm-hmm. qui ont 54 je ne sais pas
on l'a dit tout à l'heure
voilà oui. qui n'approuve pas
cette
caricature.
Cela prouve qu'il faut réagir et agir avec sagesse et intelligence en tenant compte de ces 54% des gens qui ont voté contre ces caricatures. C'est pour cela que moi je ne suis pas d'accord avec vous qu'il y a du silence. On n'est pas silencieux. Dans nos mosquées, on a fait des prêches depuis la semaine dernière. On a rencontré les jeunes, on a essayé de calmer les choses et on a essayé de trouver un terrain dans lequel on peut travailler et prendre... cette affaire
par exemple, et ce problème. Donnez-moi un exemple que vous travaillez.
Un exemple, je vous donne un exemple. Nous, on lancera bientôt, Inch'Allah Ta'ala, une manifestation culturelle.
Oui.
Pour faire connaître la véritable image du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Oui.
Pas une manifestation.
Pas silencieuse.
Non, pas silencieuse.
On doit revendiquer ce que nous ressentons quand
bien
même.
Bien sûr, ce que nous ressentons, le ressentent la plupart des citoyens français aujourd'hui.
Ah,
la même chose, qui pour la plupart d'entre eux, ils sont chrétiens ou juifs et qui ont été heurtés aussi concernant des prophètes comme l'image de Jésus qu'ont les chrétiens qui a été salie à plusieurs reprises dans des publicités et dans des articles et des caricatures.
Oui.
Et, voilà, il faut qu'on revendique nos droits en faisant appel aux droits.
Mais quand même, on a tardé, là. C'est comme si, je sais pas moi, on passe de nous, en dessus de nous, et nous, on est là, on laisse faire, quoi. Voilà.
Nous, on était en train de discuter.
Je sais pas quoi faire.
On était en train de discuter de cela, en fait.
Oui.
Donc, si tu continues à écouter l'émission, tu vas voir comment...
J'écoute-moi tout le temps.
D'accord. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de parler du fait que le prophète, comment, alayhissalatoussalam, lui-même, il a été touché de son vivant et comment il réagissait.
Oui.
D'accord. On doit réagir de la même manière. Et notamment, si tu regardes bien dans la biographie du prophète, alayhissalatoussalam, son peuple, qui est le Quraysh lui-même, qui a massacré les musulmans et qui a expulsé le prophète de chez lui, sa famille et tous les musulmans, quand ils sont rentrés à la Mecque, ils se sont mis devant lui. Il leur a posé la question, « Ma tazunnou nani fa'ilum bikum ?»« Qu'est-ce que vous croyez que je vais faire de vous ?»« Qalou, akhul karim, wabnu akhin karim » Ils ont dit, « Un frère généreux, fils d'un frère généreux. » Il leur a dit, « Idhabou fa'antum tulaqa » Il a pardonné, il leur a dit, « Partez, vous êtes libres. » Mais c'est cette paix dont on a besoin, nous, pour que les gens nous connaissent et nous comprennent.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, cher. Moi, c'est pas de la casse qu'on cherche, c'est pas notre truc. Voilà. L'islam n'est pas voilé dans ce sens.
Non.
Non. L'islam, c'est l'intelligence, c'est l'intelligence, c'est la tolérance. C'est... Mais de dire, de hurler, de dire que notre mécontentement, qu'on nous prend pas pour des badauds, pour des je sais pas qui.
Tu peux le dire à Salah. Tu as des voisins non musulmans.
Oui.
Discute avec tes voisins non musulmans. Parle-leur d'une manière douce. Dis-leur bonjour tous les matins et dis-leur qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe. Voilà notre prophète, qu'est-ce qu'il nous apprend. Apporte-leur la véritable image. Quand tu vas au marché, la même chose. Chez la boulangère, quand tu vas prendre ton pain.
Oui.
D'accord, Khouya Salah. Les gens, je vous assure que les gens autour de nous, ils sont intelligents. Il faut juste réagir intelligemment avec eux.
Justement, je profite un petit peu de la question, si je peux me permettre. On peut comprendre qu'il y ait justement ce ras-le-bol général. N'empêche qu'il y a des associations qui travaillent depuis longtemps, hein, justement, pour prévenir ce genre de choses et montrer un véritable, comme tu disais, un véritable image de l'islam. Et on peut qu'encourager les musulmans d'être actif et de participer aussi à ces associations qui on se plaint toujours que ces mêmes associations aient peu de d'hommes
sont silencieux
oui parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y applique. On est là, je vais faire un petit peu la critique de la communauté, de notre communauté, c'est on est une communauté aussi beaucoup qui réagit je veux dire spontanément à froid
sans être organisé et structuré
et sans voilà, alors que je veux dire il y a des choses qui se les révolutions, enfin les changements, les représentations, elles changent après un long temps. Il faut prendre le temps d'installer les choses, d'expliquer. C'est pas du jour au lendemain qu'on va passer d'un cap où on est calomnié, on est insulté, à un moment où on sera respecté. Je suis d'accord avec toi.
Et notre frère Salah, il peut s'exprimer.
Bien entendu. Je partage son mécontentement. Je partage et je vais dans son même sens. N'empêche que je profite justement de son témoignage pour dire que n'hésitez pas. Il y a des associations à l'échelle locale. Je pense à la nôtre. Je pense à JMF. Je pense toutes les associations musulmanes qui font un travail de terrain dans l'ombre et alhamdoulilah, je veux dire les fruits on va peut-être pas les récolter tout de suite, mais n'empêche qu'il y a des graines qui sont germées
et qui suffit d'attendre que très bientôt ils vont agir et réagir par rapport à ce qui s'est passé.
Bien entendu.
Depuis l'affaire de la loi, effectivement, par rapport aux signaux sensibles, il y a beaucoup d'associations qui ont émergé à ce moment-là, et puis ils ont essayé de s'organiser. Cependant, il faut effectivement des moyens pour pouvoir répondre, pour réclamer nos droits, défendre nos droits, et on en appelle aux droits, et pour cela, il faut des entre guillemets des armes, des avocats. Hein, beaucoup d'avocats pour pouvoir attaquer à chaque fois les quotidiens et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura un acte dit islamophobe, du moins ressenti comme ça par la population, il faut des moyens. Et pour cela, il faut s'organiser, il faut une batterie d'avocats et tout ce qui s'ensuit, et systématiquement attaquer. Et dans le sens de défendre les droits, tout simplement.
Oui.
Donc, tu lances un appel aux jeunes de se lancer dans les études de droit particulièrement.
Bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes qui font du droit. Et...
Non, mais j'en entends bien.
Oui. Mais par rapport à cette situation, qu'allons-nous penser si aujourd'hui on traite nos mères, qui sont les épouses du professeur de fornicatrices ou de femmes adultères? Ça serait pire que les caricatures que nous avons vues, certainement. Alors, sachez que, du vivant du prophète, à Médine, des hypocrites ont traité l'épouse du professeur Hassan, notre mère Aïcha, ils l'ont traité de femme adultère. Ah oui. Et ils ont touché et heurté la sensibilité du professeur Hassan et de ses compagnons, et ça a failli dégénérer au sein de Médine. Mais le prophète Hassan a calmé les choses malgré qu'il était touché au fond de lui-même. C'était son honneur qui a été touché. Mais il sortait tous les jours, il dirigeait les prières, il faisait les prêches du vendredi, la calomnie se propageait de plus en plus et le professeur Hassan était dans le silence. Mais ce son silence était méditation. C'est ça la différence. C'est que nous, si aujourd'hui on veut revendiquer certaines choses, si aujourd'hui on veut revendiquer notre droit à notre dignité et à nos sensibilités, ben, soyons et faisons-le dans la méditation.
Donc là, Fais Ahmed, on va prendre un autre auditeur. Oui, allô.
Allô, bonsoir.
Bonsoir.
Salam alaikum.
Comme ça, hein.
Bon, je crois qu'il n'y a pas de mots.
Oui.
Sincèrement. Par contre, j'ai un peu l'habitude de participer dans en général, hein. Je m'appelle Mohamed.
Oui.
Je ne peux pas me dévoiler encore, pardonnez-moi, parce que tout ce que je peux dire, je m'intéresse au code de la route.
Bon, c'est vrai, oui, c'est là-dedans, oui.
Sincèrement, je fais un travail, mais c'est ce que j'ai envie de dire comme musulman, mais j'ai jamais dit ça, mm-hmm. Musulman. Je le dis, puis je le répète, je vais dire même une shahada. Je dois aller, il a une voix, ou je vais le mettre dans le retour.
Non, mais on...
Moi, je dis ça comme citoyen de ce pays.
Oui, mais posez votre question.
Je crois que j'ai envie de dire. Mm-hmm. La liberté d'expression. Je lis les journaux, ils ont des moyens, ils ont pas mal de moyens, ils veulent détourner, ils ont touché à quelque chose, comment voulez-vous qu'on respecte quelqu'un qui nous respecte pas? C'est ça ce que j'ai envie de dire, et j'ai envie d'ajouter sans polémiquer dessus, est-ce qu'ils peuvent nous répondre pour qu'on a privé des contribuables étrangers de leurs droits pour ne pas laisser le pain prendre le dessus? Voilà, c'est-à-dire les musulmans, ils ont contribué, je suis sûr et certain, ils se sont, je crois, au droit de voter, donc dans des pays de droit, j'espère que vous allez comprendre ce que je dis. C'est-à-dire les gens de ce pays-là, ça fait des générations qui sont là.
Oui, si vous pouvez être plus bref et concis.
Voilà, ça veut dire que lorsqu'on prive les gens de leurs droits, et que nous on a contribué à ce que leurs valeurs se mettent, c'est-à-dire qu'on préserve leur société, alors qu'ils respectent la nôtre, voilà, je parle comme musulman, smahali, on n'a pas de clergé, nous, chacun s'exprime comme ça, mais je crois qu'il y a une prise de conscience, ils ont rendu service implicitement aux musulmans, mm-hmm. Ils vont découvrir qu'il y a 1,5 milliard de musulmans, mm-hmm. Que les Européens, ils sont 450 millions, mm-hmm. Je crois que c'est ça, il faut parler dans leur langage.
Non, mais si on a bien compris, vous dites que par rapport à la situation, c'est une occasion pour les musulmans de se réveiller et de se dire, bah, peut-être à un moment, si on veut manifester son mécontentement, il y a peut-être un moyen par des votes.
C'est fait, je m'adresse seulement à cette république dans laquelle on vit.
Oui, très rapidement, parce qu'on a d'autres auditeurs qui attendent en ligne, donc si vous pouvez être plus concis.
C'est bon.
Oui, allô.
Barakallahu fik, khouya.
Barakallahu fik.
Frère Mohamed, je rappelle on ne doit pas, nous musulmans, dans notre éthique, on ne doit pas répondre au mal par le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, « Wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. » Mm-hmm. Ce n'est pas parce que des gens sont injustes vis-à-vis de vous que vous allez rendre l'injustice par l'injustice. Soyez juste, c'est plus près de la piété. C'était juste pour cadrer le débat et qu'on ne dérape pas, barakallahu fikoum. Restons dans l'éthique musulmane.
Mm-hmm. Barakallahu fikoum pour ces précisions. Donc, bien important, on va prendre, il y avait quelqu'un qui oui. Nous interpellait. Oui, allô.
Allô, salam alaikum.
Alaikum salam.
Oui, ça, c'est Ibrahim.
Ibrahim, salam alaikum.
Kif halkoum, vous allez bien? J'ai écouté un peu là pendant dans la voiture et j'ai pas pu vous appeler pendant que j'étais en voiture.
Oui.
Donc je voulais juste vous dire que j'ai écouté la personne qui voulait absolument réagir et puis faire des choses, etc. Mm-hmm. Juste dire que Vous parlez aussi des associations qui étaient sur le terrain,
oui.
Et qui faisaient des choses depuis...
Depuis longtemps.
Depuis longtemps, oui, voilà.
On en a parlé, on a cité l'IMF et d'autres...
Ceux qui souffrent justement de manque de personnes bénévoles, etc. Mm-hmm. Et donc nous, Ahmed, je pense que... Donc il est au courant par rapport au projet que nous allons lancer à partir de la semaine prochaine. Mm-hmm. Donc c'est un... Je ne sais pas si ils en ont parlé...
J'en ai parlé.
Vas-y, précise.
Non, bah, c'est tout. Bah, si il en a parlé, donc c'est tout simplement que les auditeurs soient attentifs. Mm-hmm. Donc il y a un concours, il y a un grand concours qui va être lancé par JMF et donc certaines associations, en partenariat avec certaines associations de la région Nord. Mm-hmm. Et donc certains commerçants aussi qui vont bien vouloir nous sponsoriser. Mm-hmm. Donc c'est un grand concours sur la biographie du prophète. Donc mm-hmm. partir justement à la découverte de la personnalité donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. Donc en allant chercher, en allant faire des recherches, etc. sur sa vie. Et puis, bien sûr, donc d'ici bientôt, un mois et demi, deux mois bientôt, mm-hmm. donc ce sera la période du Mauloud. Donc mm-hmm. il y aura une conférence, une soirée qui sera organisée. Donc où la remise des prix sera donc attribuée. Mm-hmm. Et nous sommes justement inchallah en train de voir pour vraiment mettre des lots très très intéressants, dont inchallah normalement une umra. Mm-hmm. Donc, pour le vainqueur, pour le premier. Mm-hmm. Et puis beaucoup de cadeaux à gagner donc lors de ce concours. Donc, voilà, je pense que c'est une des manières.
Bah oui.
Pour répondre à cette agression, à cette provocation. Mm-hmm. Et je pense que c'est ce genre d'activité, ce genre d'initiative qu'il faudrait encourager. Mm-hmm. Plutôt que de crier et puis ça ne servira à rien. Quoi. Mm-hmm.
Pour cette précision, et tu fais bien de le faire, tu n'hésites surtout pas à nous rappeler un petit peu l'évolution du projet.
Ça sera lancé à partir de la semaine prochaine.
Très bien.
On en reparlera le vendredi prochain, Inch'Allah. Mm-hmm. Et puis, je pense que...
C'est bon. Allô.
Il faudrait faire, c'est comme il a dit Ahmed tout à l'heure,
oui.
C'est donc un travail à faire au niveau des voisins, au niveau des amis, etc., plutôt que des cris et puis des choses...
Des chaînements.
Voilà.
Baklafé, Ibrahim, pour ton appel.
Wa fikum barakat.
On va prendre un autre auditeur, Baklafé, salam alaikum. Oui, allô. Allô, allô.
Allô,
oui. Salam alaikum. Alaikum salam.
En fait, je veux poser une question qui n'a rien à voir avec le thème dont vous parlez.
Bah, il n'y a pas de souci.
Donc, je m'appelle Nourdin.
Enchanté.
Donc, enchanté, je suis de la région de Lille et puis je voudrais avoir des renseignements sur la Rokia, en fait.
J'ai pas entendu, sûr.
Pour la Rokia. Donc, parce que j'ai une personne que je connais qui est malheureusement malade.
Il faudrait Nourdin appeler hors antenne à 10h, Inch'Allah, dès qu'on a terminé.
Après l'antenne, d'accord.
Voilà.
D'accord. Barakallahu fik.
Pour aller dans le sens aussi des questions qui n'ont pas de rapport direct avec le thème de ce soir, on a une auditrice qui a appelé pendant la pause précédente et qui posait la question suivante, et elle voulait absolument qu'on y réponde, bien entendu. C'était au sujet des jours de Ashura. Donc si on peut rappeler, elle nous demandait la signification de ces deux jours. C'était mercredi et...
Non, c'était jeudi.
Jeudi,
oui, le jour de Ashura.
Mercredi et jeudi.
Jeudi.
Voilà. Donc juste pour rappeler en quoi il consiste et à quel honneur ce jour de jeûne.
Le jeûne de Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram et c'était une fête qui était, bien sûr, elle faisait partie des mœurs des juifs de Médine. Mm-hmm. Le professeur Asselin l'a découvert et quand il a compris pour quelle raison il le faisait, donc il le faisait par rapport, pour marquer l'événement du fait que Moïse et les enfants d'Israël sauvés de Pharaon ont traversé la mer. Et donc c'était ça, le jour de Ashura. Et le professeur Asselin m'a dit, nous sommes plus proches de Moïse qu'eux. Et donc nous, ce jour-là, on le fêtera en faisant une adoration. Cette adoration, c'est le jeûne. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, à partir de l'année prochaine, si je suis encore vivant, je jeûnerai le 9 et le 10. Voilà, pour être différent.
Pour avoir une petite précision, parce qu'on voit beaucoup à chaque fois quand il y a la Ashura, dans nos chaînes télévisées, les chiites, la façon dont ils le font, alors ça correspond à quoi aux chiites?
Chez les chiites, Ashura, c'est le jour où une grande partie de la famille du prophète et la descendance du prophète a été massacrée à Karbala, en Irak. Dont le petit-fils du professeur Assalam al-Hussein. Et donc, eux, pour eux, c'est un événement pour marquer la mémoire, et, mais ils le font d'une manière non islamique. Voilà, vous savez ce que c'est.
On a un auditeur qu'on va prendre tout de suite en antenne. Oui, allô ?
Allô, salam alaikum.
Alaikum salam.
Voilà, je vous encourage pour ce que vous faites là.
Bah, tu en fais, merci.
Les conseils que vous donnez à tous les musulmans de France et du monde.
C'est gentil de votre part.
Et j'aurais voulu vous poser une question à propos d'un ordre de chevalerie qui a existé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un ordre de chevalerie qui disent que ça s'appelait Khilf al-Fudul. J'aimerais une explication, s'il vous plaît, si vous pouvez nous en donner pour mieux comprendre ce que c'était.
Allez, cet ordre de Khilf al-Fudul, c'était en fait une...
Ah oui, vous pouvez couper, vous restez à l'antenne pour écouter la réponse. Bah, que l'on fait pour votre appel.
En fait, le professeur Asselin avait cité que avant qu'il soit prophète, et qu'il soit proclamé par Dieu prophète, il avait assisté à une assemblée des chefs des Arabes autour de la Mecque, et qui ont signé un engagement et un pacte. Et cet engagement et ce pacte étaient un pacte et un engagement juste, c'est-à-dire rendre justice à tout opprimé, d'accord, et protéger toute personne faible. Et le prophète, alayhi salam, par la suite, alors qu'il est prophète, avait dit, Quraysh m'avait invité à signer avec elle et à s'engager à ce pacte. Si aujourd'hui on m'invite, alors que l'islam est mis en place et tout ça à Médine, si aujourd'hui on m'invite à un pacte et à un engagement semblable à celui-ci, je le ferai encore. C'est-à-dire que aujourd'hui, si les non-musulmans nous invitent à s'engager entre eux, à proclamer la justice et rendre droit à celui qui est opprimé et protéger le faible, il faut le faire, Inch'Allah ta'ala, et être partenaire de la justice, partenaire de la bienfaisance, partenaire de la vie sociale et de l'équité et l'égalité. Voilà.
Donc là, pour ces précisions, ça va dans le sens de la pleine citoyenneté en tant que musulman, qui vivant citoyen français, de participer justement à une certaine cohésion et à une certaine justice et sociale et une justice tout court, bien entendu, en tant que musulman, de par notre éthique et en tant que citoyen. On répond bien entendu à toutes ces valeurs. 21h56.
Cette affaire de calomnie.
Oui.
Comment le professeur Slim avait réagi? Il avait réagi de la manière suivante. C'est que les musulmans ont commencé à se disputer entre les gens de l'Aous et les gens de Khazraj, deux tribus qui existaient avant l'arrivée de l'islam à Médine. Et les uns dénonçaient les autres. Les gens de les migrants qui sont venus de la Mecque avec les Ansar, et ça a failli faire une séparation, une division dans le rang des musulmans. Le professeur Hassan leur a dit, laissez, ceux-là sont mauvais, d'accord, le racisme, d'accord. Et si aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui s'il y a des appels, s'il y a des émeutes, ça ne vient que de personnes qui cherchent à affaiblir les musulmans. Des gens qui, pour la plupart, sont des arabophiles. C'est des purs racistes, d'accord, qui ne reconnaissent pas l'islam en tant que religion universelle. Et donc il faut qu'on fasse très très attention à cela. Donc maintenant, comment le prophète a.s.w. a réagi par rapport à d'autres problèmes qu'il a subis, d'autres faits qu'il a vécu. Ce problème de calomnie, celui qu'il avait annoncé, qu'il avait lancé, c'était la tête de l'hypocrisie à Médine, pardon. Et il est mort. Et quand il est mort, le prophète est parti, il s'est mis à côté de sa tombe, et il a invoqué Allah pour qu'il lui pardonne. Et Omar, il vient et lui dit, oh messager d'Allah, c'est le pire hypocrite de Médine, la tête de l'hypocrisie. Et Allah, dans le Coran, t'a dit, même si tu demandes pardon en leur faveur, ou que tu ne demandes pas pardon, Allah ne leur pardonnera jamais. Le professeur Hassan lui a dit, mais monseigneur, dans la sourate Touba, m'avait dit, tu peux leur demander 70 fois. Mm. N'est-ce pas un homme de miséricorde, celui-là? Le prophète de l'islam, lui-même, alayhi sallatou wassalam, quand deux compagnons, Hudayfa et son père Al-Yaman, tous les deux, ils ont quitté Mecca, la Mecque, pour rejoindre les musulmans à Médine, ils se sont fait attraper par les Mecquois en route, par les soldats Mecquois. Ils leur disent, où vous allez? On veut rejoindre le prophète. Ils leur ont dit, nous on va déclarer la guerre à votre prophète. Mais si vous nous promettez de ne pas prendre et porter les armes contre nous, on vous laisse libre. Sinon, on vous tue ici. Alors, Hudayfa et son père Yémen, ils ont dit d'accord. Mais ils ont rusé. Et dans leur tête, c'est des non-musulmans. Nos pactes et nos engagements, ils ne tiennent pas. Comme c'est des non-musulmans, on s'en fout. Ils sont rentrés à Médine. Ils ont vécu normalement. Ils ont commencé à se préparer pour défendre la ville. Et le prophète les appelle, venez, tous deux. Et il y a eu vous avez été attrapés. Le prophète, Allah lui a dit, à travers Jibril. Ils ont dit, oui, Rasulallah. Mais vous vous êtes engagés vis-à-vis d'eux. Ils ont dit, mais c'est des koufars, on s'en fout, c'est des non-musulmans. Il n'y a pas de pacte ni d'engagement qui tient avec eux. Le prophète Hassan leur a dit, non, c'est pas notre éthique, c'est pas notre moralité. Il leur a dit, on tient notre engagement et on invoque Allah pour qu'il nous préserve de leur nuisance. Et ils sont restés à Médine, ils ne sont pas sortis pour protéger la ville. Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran avait cité ces gens-là qui se sont laissés aller pour dire ce que ces personnes qui veulent dénigrer l'islam, dire ce qu'ils veulent. D'accord? Et proclamer ce qu'ils veulent tout en se proclamant musulmans. Hein? Notamment certains petits mouftis et savants de Marseille qui ne lavent pas les saletés. Et on dit ce que les journalistes veulent qu'on dise de nous pour qu'on dise toujours le grand moufti de telle ou telle ville. Mm. Alors que nous, on est dans un pays laïque et normalement, on ne doit pas reconnaître les statuts religieux. Il lui donne un statut que les musulmans ne lui donnent pas. Mm. Il n'a même pas de mosquée. Mm-hmm. Il a une mosquée imaginaire qui n'existe pas. Aussi d'autres, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah s'adresse à lui. Il lui dit, si tu tombes dans ce piège, tu risques pire. Tu risques le fait que ton Seigneur te délaisse. Mm. Et si ton Seigneur te délaisse, tu vas déraper. Mm. Tu vas faire n'importe quoi. Notamment le petit moufti de Marseille, qui on le revendique comme libérateur des femmes, soi-disant, quand question du foulard, alors qu'il a été poursuivi en justice par sa femme, violence conjugale, après que monsieur a bu. Jusqu'à se remplir d'alcool. À plusieurs reprises, il frappait sa femme. Il se revendique de la libération, de la liberté de la femme et l'égalité. Aussi, Allah Azza wa Jalla dans la même surat al-Isra, que je disais tout à l'heure, le voyage nocturne, disait « Wa in kadu yastafizzunaka min al-ard liyukhrijuka minha ». C'est ce qu'ils essayent maintenant, certains médias, de faire, stigmatiser les musulmans, dire que ce ne sont pas des musulmans intégrés, ce sont des musulmans qui se revendiquent d'une religion et non pas d'une citoyenneté, et qui n'ont pas leur place ici. Donc, ils doivent quitter. Notamment, maintenant, il y a un projet de l'immigration, carrément, qui va se mettre en place et qui va être voté. C'était fait à l'époque. Le professeur Asselin, comment il devait réagir? Et c'est ce qu'on devrait faire. Et moi, c'est ce que j'ai appelé la véritable manifestation. C'est la manifestation de foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah azza wa jal, c'est une sunna, c'est une directive d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une nature dans la création, la nature du fait de pousser le bien, il pousse le mal. Le savoir et la science poussent et éloignent l'ignorance. D'accord? La justice pousse et éloigne l'injustice. Le bonheur pousse et éloigne le malheur. Ça, c'est une sunna, c'est-à-dire une nature qu'Allah Azza wa Jalla a mis en place sur terre. C'est cité dans Surat al-Baqarah, juste avant le verset du trône. C'est le verset 253 de la Surat al-Baqarah. Puis après, qu'est-ce qu'il dit, subhanahu wa ta'ala? il dit au professeur Asselin, voilà comment tu dois manifester. Aqim al-salat al-idulouk al-shamsi ila ghasaq al-layli wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhouda. Ces gens-là qui veulent manifester, sortir et crier, moi je leur dis, voilà la véritable manifestation, celle que dit Allah. Aqim al-salat al-idulouk al-shamsi, la prière de l'Maghrib, la prière de l'Dhuhr, la prière de l'Asr, la prière de al-fajr wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhouda. Où sommes-nous au moment de la prière de l'Fajr? Pourquoi on n'est pas à la mosquée pour adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala? C'est ça la véritable manifestation. Et si on doit avoir une force, on ne pouvait l'avoir, et on ne pourrait l'avoir, et on ne l'aurait jamais que de la part de notre Seigneur, si notre relation avec lui est une relation de force, une relation forte, qui nous renforce, et qui fait en sorte que le fort, face au faible, il est comment? Il est indulgent. Il est clément. Il pardonne.
C'est ce qui fait sa force.
D'accord, c'est ça qui fait sa force. Et voilà comment on doit agir, Inch'Allah.
Ta'ala. Oui, Jizik Bekhel, Sahanat, pour toutes ces précisions et ces recommandations à méditer, bien entendu, par rapport à la situation que beaucoup d'entre nous vivent. Soyons forts dans notre spiritualité pour qu'on soit fort et indulgent vis-à-vis de ceux qui nous attendent. Que l'on fait qu'on terminera juste par l'information. Talq Ramadan demain, samedi 11 février 2006 à partir de 20h, Islam entre principe et réalité. Je pense qu'il y aura pas mal de discussions autour de ce qui de l'actualité. Hein. Donc soyez les bienvenus à cette conférence. C'est à la salle MAC, Cité Scientifique à Villeneuve-d'Ascq. Nous, c'est juste à côté du métro Cité Scientifique, à côté de l'hôtel Ascotel. Petite participation de 5 euros sans demander. Les places étant limitées, n'hésitez pas à venir un petit peu plus tôt. Donc, conférence demain, 11h, à partir de 20h, à la salle MAC, Cité Scientifique. Notre émission touche à sa fin. Désolé pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas pu intervenir en temps et en heure, mais on doit passer le relais à GMF Tourcoing pour l'émission Safina sur la culture du chant religieux. On vous donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, à partir de 20h. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.